Tony l'a déjà rappelé. Dans quelques jours, nous serons appelés à élire un nouveau conseil. J'ai participé à la commission d'élection et au cours de ce travail, je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce que cela signifie pour notre Église ? Pour l'Église, pour chacun de ses membres, pour les conseillers qui sont élus eux-mêmes, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, j'ai pensé à ces questions et en y repensant, j'ai relu le cahier des charges des conseillers, un document qui accompagne le règlement interne de l'Église. J'y ai trouvé d'abord une liste d'activités, un aide-mémoire, qui rappelle aux titulaires les aspects administratifs de la vie de l'Église, aspects auxquels ils devront veiller en vue du bon déroulement de ces activités. Ensuite, ce document décrit le comportement qui est attendu d'un conseiller, c'est-à-dire les qualités spirituelles de la personne. Qualités propres à assumer les responsabilités dans l'Église. Ce sont la conviction, la communion, l'humilité et le service. Au fond, je constate que l'on dispose là d'un bon document. Et j'encourage les candidates et les candidats qui seront présentés lors de l'élection au Conseil à relire ce document. Bon, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et puis, pour ceux qui seront élus, je leur recommande de le lire périodiquement, de le reprendre. Ils pourront aussi se remémorer ce que l'Église attend d'eux. Mais qu'ils le lisent aussi parce que s'ils ont été élus, c'est que les qualités dont je viens de parler leur sont reconnues. Et cet honneur peut représenter une bonne motivation pour ne pas décevoir les attentes de la communauté. Pourtant, je vous avoue qu'après avoir refermé ce cahier des charges, j'ai tout de même eu le sentiment qu'on a passé un peu comme chat sur braise sur un élément qui me semble essentiel, à savoir la notion d'autorité. En réalité, je n'étais pas trop surpris parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que, à l'époque, j'ai moi-même activement participé à la rédaction de la première édition de ce document. Et la seconde raison, c'est que, dans nos églises, je crois que c'est bien connu, on est réticent, pour ne pas dire méfiant, envers les personnes qui pensent devoir agir avec autorité dès le moment ou leur confie des responsabilités. Et je me souviens qu'au cours de ce travail de rédaction, on a été sensible à cet argument. Et j'imagine que nous avons tous connu des situations difficiles d'abus d'autorité, qui justifient un usage prudent du terme d'autorité. Alors, pour en revenir à notre cahier des charges, la seule mention de l'autorité est ainsi libellée. Le titulaire exerce l'autorité spirituelle avec douceur et, si nécessaire, avec fermeté. Difficile de faire mieux en matière de prudence. J'espère que la limite aux questions de spirituel, d'une part, et la distinction entre douceur et fermeté, d'autre part, ne provoqueront pas des insomnies aux conseillers, ni des migraines. Au fond, est-ce que l'on ne pourrait pas, tout simplement, éviter de chercher à définir l'autorité ? Est-ce que, expérience faite, il vaudrait mieux en rester là dans notre cahier des charges, au statu quo ? Ce qui nous amène finalement à nous poser la question, est-ce que le principe d'autorité est fondamental pour la foi chrétienne et pour la conduite d'une église ? Dans un ouvrage récent intitulé « Recommencer l'Église », le professeur Motu constate que si le catholicisme pêche par abus d'autorité, le protestantisme, lui, pêche par absence d'autorité. Cette remarque prouve, je crois, qu'aujourd'hui encore, l'Église souffre bien d'un problème d'autorité. Alors, est-ce qu'il est possible de trouver la juste mesure, c'est-à-dire une bonne manière d'exercer l'autorité dans l'Église, sans abus ni laxisme. C'est la question à laquelle je vous propose de réfléchir maintenant. Le sens biblique de l'autorité. Je crois que la réflexion à ce sujet a pour point de départ le fondement sur lequel Dieu a fait alliance avec son peuple. Vous comprenez peut-être que je parle du décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements ou 10 paroles que Dieu a données à Moïse en Horeb après la sortie d'Égypte. Alors nous en trouvons le contenu dans l'Exode, chapitre 20, dans le Deutéronome, chapitre 5. Dans les deux cas, ces commandements sont introduits par cette phrase « C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dans cette simple phrase, Dieu s'annonce comme le souverain, comme la référence, comme l'autorité, et la seule autorité, qui décide de l'avenir de ce peuple. Mais aussi, Dieu s'annonce comme celui qui, librement, se lie à son peuple. C'est dire que le décalogue, ce n'est pas comme on a souvent l'impression, ce que Dieu exige du peuple. Mais c'est au contraire ce que Dieu donne, par grâce, tout simplement. Au moment où Dieu libère les Israélites de la servitude d'Égypte, il leur donne, par ses paroles, la possibilité de vivre en homme libre. Il ouvre un avenir à son peuple. Au temps de Jésus, la question de l'autorité a été sujet de litige avec les grands prêtres, lorsque Jésus enseignait la foule. Alors les évangiles se font l'écho de ces difficultés et de ces confrontations. Et par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, nous avons un récit qui rapporte ces difficultés. Alors, je remercie Eric qui voudra bien nous faire cette lecture.
Alors, bonjour, je vais vous lire Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 32. Je vous préviens que je n'utiliserai pas les noms dans la langue française, mais les noms propres dans la langue d'origine, tels que les personnes s'appelaient à l'époque. Quand il fut entré dans le temple, les grands prêtres et les anciens du peuple s'avancèrent vers lui, pendant qu'il enseignait, et lui dirent « En vertu de quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Yeshua, c'est-à-dire Jésus, leur répondit « Moi aussi je vais vous poser une question, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour en vertu de quelle autorité je fais cela. Le baptême de Yochanan, c'est-à-dire Jean, de qui venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Ils raisonnèrent ainsi en eux-mêmes, « Si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Yochanan pour un prophète. » Alors ils répondirent à Yeshua, « Nous n'en savons pas. » Et lui aussi leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. » Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit, « Mon enfant, « va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Yeshua leur dit, « En vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume d'Adonai, car Yochanan est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. » Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui.
Merci. Vous avez compris, ce texte comporte deux parties. D'abord, un entretien entre Jésus, les grands prêtres, les anciens du peuple, versets 23-27, puis vient la parabole dite des deux fils, versets 28 à 32. Ces deux textes sont souvent considérés séparément, On verra tout à l'heure qu'en réalité, on a tout lieu de penser que Jésus adresse la parabole aux mêmes interlocuteurs que ceux avec lesquels il était en dialogue dans la première partie du texte. Considérons d'abord la question posée à Jésus par les grands prêtres et les anciens du peuple. On pourrait penser que ce récit n'est justement pas celui qui peut nous aider à comprendre le sens biblique de l'autorité, puisque Jésus refuse de l'expliquer à ses interlocuteurs. Et c'est d'autant plus surprenant que la question d'autorité posée à Jésus était tout à fait légitime, car les grands prêtres et les anciens du peuple étaient responsables du temple. Et en conséquence, ils étaient légitimés à demander à Jésus en vertu de quelle autorité il enseignait là. Jésus lui-même confirmera par la suite qu'ils étaient dans leur rôle en lui posant cette question. Chapitre 23, on trouve cette remarque de Jésus, « Les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse ». Donc ils avaient cette autorité. En réalité, la question des grands prêtres et des anciens du peuple ne visait pas l'enseignement proprement dit de Jésus, mais bien sa personne. Pensez donc, le fils du charpentier qui enseigne dans le temple et qui a un leadership mais incroyable face à la foule. Or, il faut savoir que dans la mentalité juive, il n'y a pas d'autre autorité que celle donnée par Dieu. D'où l'accusation, à peine voilée envers Jésus, d'usurper une autorité qui n'appartient qu'à Dieu. Ainsi, le comportement de Jésus posait aux prêtres un problème de discipline ecclésiastique. Pour cette raison, Jésus ne répond pas à leurs questions. Mais le refus de répondre à la question constitue tout de même une réponse, même si ce n'est pas celle que ses interlocuteurs auraient voulu entendre. Car en leur posant la question, à son tour, en leur posant la question assez inattendue sur Jean-Baptiste, Jésus place le débat sur un autre plan. Faire référence au Baptiste, c'est rappeler à ses interlocuteurs qu'au désert, le peuple était placé précisément devant un choix, on l'a entendu, celui du ciel ou des hommes. Or, ce choix, qui était celui de la foi, les Juifs ont refusé de le faire. Ils n'ont pas su discerner l'autorité de Dieu lorsqu'elle se manifestait par la parole de Jean. Maintenant, l'embarras des prêtres confirme que la prédication de Jean ne les avait pas beaucoup touchés. Ils étaient donc dans l'impossibilité de comprendre d'où venait l'autorité de Jésus. Quant à la parabole des deux fils qui suit ce texte, elle se termine, vous l'avez peut-être remarqué, par un nouveau rappel du ministère de Jean-Baptiste, ce qui confirme l'unité du texte de ces deux parties qui ont été lues. Et cette dernière phrase de Jésus, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. » Vous qui avez vu cela. Donc, on peut bien penser que c'était les mêmes interlocuteurs. Cette parabole, elle est explicite. D'un côté, les hypocrites, qui disent et ne font pas, une allusion claire aux religieux, qui étaient bien placés pour connaître Dieu, mais qui en réalité n'obéissent pas à Dieu, et à qui Jésus répondait tout à l'heure, « Moi non plus, je ne vous dirai pas de telle autorité, je fais ces choses. » De l'autre côté, les pécheurs qui se repentent et reconnaissent l'autorité de Dieu, et s'y soumettent, allusion à ceux qui, au désert, se sont repentis et ont accepté le baptême de Jean. Ainsi, cette parabole est la réponse, finalement assez claire, que Jésus donne quant à l'origine de l'autorité au nom de laquelle il enseignait. Une autorité qui ne se démontre ni ne se discute, mais qui se reconnaît par la foi. Une autorité qui ne vient pas des hommes, auxquels, de toute façon, Jésus n'a aucun compte à rendre. Jésus, il est le maître du sabbat, il est le maître de la loi, et il est le maître du temple. Tout cela, il le leur avait dit, répété à maintes reprises à ses interlocuteurs. Et ici, il juge inutile de le répéter. Aujourd'hui, je pense que nous sommes tous d'accord pour reconnaître que l'autorité a sa place dans l'Église, car il s'agit de l'autorité de celui qui est l'objet même de la foi, Jésus-Christ. Cette affirmation renvoie en quelque sorte, catholiques et protestants, un peu dos à dos. Du côté catholique, si on veut défendre l'Église et sa hiérarchie, et du côté protestant, une autorité que chacun pourrait définir un peu à sa guise et selon sa propre expérience. Mais au-delà de nos différences de confession, nous devons veiller à un autre danger. En effet, face à nos doutes et dans notre recherche de sécurité, on peut être tenté de penser que l'on trouvera dans l'autorité l'apaisement de nos inquiétudes et la confirmation de nos propres désirs, souvent. Parce qu'en matière de foi, lorsqu'on se sent démuni, on est mieux disposé à reconnaître l'autorité de celui qui parle avec assurance. Et nous accueillons, hélas, volontiers la parole de celui qui rassure. Alors, un sage malicieux a ironisé sur cette attitude en donnant le conseil suivant. Quand vous n'avez rien à dire, dites-le avec aplomb. On pensera que vous avez dit quelque chose, et même on pensera que vous avez raison. Alors il nous faut donc veiller à notre façon de comprendre l'autorité dans l'Église. Cette autorité vient de ce que Dieu s'est tourné vers les hommes, et cette démarche a pris visage humain en la personne de Jésus de Nazareth. On peut faire là un parallèle avec l'intervention de l'Éternel qui délivre son peuple de la servitude de l'Égypte. Alors, comprendre l'autorité dans son sens biblique, c'est rencontrer Jésus-Christ. Finalement, c'est à l'Esprit-Saint qu'il faut attribuer la capacité de convaincre de son autorité. Nous avons évoqué tout à l'heure les abus d'autorité, cause de la difficulté, du moins dans l'Église, de reconnaître l'autorité de ses responsables. Les abus et la méfiance qu'ils induisent parmi beaucoup de chrétiens viennent souvent de la confusion entre autorité et pouvoir. L'autorité, le sens étymologique du mot autorité, signifie celui qui, ce qui fait croître et grandir. Donc l'autorité a pour but de libérer, de mettre en route, comme l'a montré le récit de la sortie d'Égypte. Et sa qualité première est le discernement. L'autorité se reconnaît aux fruits qu'elle porte. Et finalement, l'autorité cherchera à disparaître dans ce sens que l'idéal de l'autorité, c'est de devenir inutile. L'autorité refuse le recours à la contrainte et l'usage de la force constitue pour l'autorité un échec. Et il y a abus d'autorité dès le moment où elle accapare le pouvoir. Quant au pouvoir, alors il faut bien penser que le pouvoir est nécessaire. On ne doit pas tout de suite penser que le pouvoir est quelque chose de négatif. Il est nécessaire, il a pour but de se développer. Sa qualité essentielle est la compétence. Et il cherche à réaliser des projets pour le bien commun. Disons encore que l'autorité est sans effet si elle énonce des principes sans chercher à mesurer ce qu'ils impliquent d'engagement et sans s'intéresser non plus au pouvoir nécessaire à leur mise en œuvre. Enfin, un pouvoir sans autorité est un pouvoir sans légitimité. L'autorité et le pouvoir sont tous deux nécessaires au fonctionnement de l'Église. L'essentiel, c'est de ne pas les confondre et de se souvenir que tous deux sont des services. Qu'en est-il de l'autorité et du pouvoir dans l'Église? Le professeur Fuchs, dans un ouvrage qui est assez récent, fait à ce sujet cette remarque. Le drame de nos Églises est que bien souvent, ministres et laïcs dirigeants sont aussi mal préparés à incarner l'autorité qu'à exercer le pouvoir. Bien que cette remarque concerne l'Église réformée, je crois que nous devrions aussi en faire notre profit. L'apôtre Pierre rappelle, dans un premier épître, que c'est la communauté tout entière qui exerce le sacerdoce, c'est-à-dire qui exerce l'autorité de la part de Dieu. Toutefois, nous devons reconnaître tout de même que certains sont appelés par Dieu pour aider la communauté à vivre sa foi. Mais sont-ils l'émanation de la communauté qui garderait pouvoir sur eux? Ou au contraire, devraient-ils être des vis-à-vis, voire être au-dessus de la communauté pour la diriger? À cette question, somme toute un peu mal posée, mais enfin, bon, bref, à cette question, Eric Fuchs répond en s'inspirant de la manière dont Paul explique aux Galates sa mission et son appel, au début de l'épître des Galates, c'est-à-dire comment il a été saisi par Christ pour annoncer l'évangile aux païens. Alors Eric Fuchs répond à cette question, l'autorité dans l'Église n'est pas déléguée par les détenteurs du pouvoir. Elle est donnée par le Christ à ceux qu'il choisit. L'Église ne peut que reconnaître ce don qui lui est fait de ses serviteurs. Alors je trouve cette phrase vraiment très importante à retenir, le sens à retenir, je me permets de la relire. L'autorité dans l'Église n'est pas déléguée par les détenteurs du pouvoir, elle est donnée par le Christ à ceux qu'il choisit. Et l'Église ne peut, en conséquence, que reconnaître ce don qu'il lui a fait ses serviteurs. Paul, aux Éphésiens, leur écrivait, et les dons qu'il a fait, donc les dons que le Christ a fait, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et des catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ. L'autorité dans l'Église a pour but d'aider les membres de la communauté à vivre sur les préceptes évangéliques et à avertir ceux qui les négligent. Paul faisait cette recommandation aux Thessaloniciens, « Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui parmi vous se donnent de la peine, veillent sur vous dans le Seigneur et vous reprennent. Ayez pour eux la plus haute estime, avec amour, en raison de leur travail. Vivez en paix entre vous. » Ainsi l'autorité, de même que le pouvoir qui lui permet d'intervenir, sont eux-mêmes soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Certes, ce fonctionnement est difficile à pratiquer. Il demande patience et amour fraternel. Si tel n'est pas le cas, le pouvoir qui n'a pas le souci du bien commun de la communauté est une catastrophe. C'est encore une citation d'Eric Fuchs. Le pouvoir qui n'a pas le souci du bien commun de la communauté est une catastrophe. C'est encore une citation du professeur Fuchs et en outre, il ne faut pas oublier que le pouvoir que l'on s'octroie soi-même n'a aucune autorité. Le danger est que ce pouvoir soit sacralisé. Et je crois que l'expression qu'on entend de temps en temps, « Dieu m'a dit », en est hélas souvent le signe d'une sacralisation du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir est alors mis au service d'intérêts personnels et égoïstes. Pour revenir au cahier des charges de nos conseillers, est-ce qu'il faut le revoir? Alors là, comme nous avons entendu dans le dernier colloque que le conseil étudiait une actualisation de ce document, je laisse à nos conseillers le soin de répondre à la question. Enfin, au terme de ces remarques concernant l'Église, je crois qu'il y a deux attitudes clés qui garantiront le bon fonctionnement de ces structures. La première concerne l'exercice de l'autorité. Il s'agit de pratiquer la collégialité pour éviter les abus, sans pour autant exclure qu'un membre de la communauté soit appelé à transmettre de la part de Dieu une parole d'autorité. Mais cette situation n'exclut pas d'agir par collégialité. Et la deuxième attitude paraît importante, quant au pouvoir, il s'agit de l'exercer dans un esprit de collaboration les uns avec les autres, de manière à préserver les relations mutuelles. Et qu'il s'agisse de l'autorité ou du pouvoir, l'essentiel est le respect de la parole de Dieu. Alors pour conclure, j'aimerais dire ceci. D'abord dire à tous ceux, qui sont les candidats à l'élection du Conseil, leur dire que je les remercie de tout cœur d'accepter le risque d'une élection et d'être prêt à assumer les responsabilités de la communauté. Et dire que je me réjouis de ceux que Dieu a envoyés à l'Église. J'aimerais encore encourager toute la communauté, nous tous, à assurer un soutien dans la prière pour chacun des membres du Conseil. Et que nous tous ensemble, nous entrions dans une attitude d'obéissance de la foi envers celui qui est l'autorité et qui nous donnera le pouvoir d'accomplir le service qu'il attend de nous, Jésus-Christ. Et retenons cette recommandation de l'apôtre, vivez en paix entre vous. Amen.